très bonne journée à vous qui nous rejoignez pour le service protestant. Aujourd'hui, nous écouterons le pasteur Daniel Cassou de l'Église protestante unie de France, chargé de la communication. Il nous propose une méditation intitulée « Dieu aime le monde ».
Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce service protestant. Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole de Dieu. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Oui, Dieu vient à notre rencontre. Dieu notre Père, nous te remercions pour cet instant mis à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange. Un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Que ta parole nous guide et nous éclaire. Qu'elle soit source de joie chaque jour. Et nous écoutons le psaume 100. Acclamez l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec plaisir. Allons à lui avec des chants de joie. Reconnaissons que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, son troupeau. Allons dans sa maison lui rendre grâce. Allons dans sa demeure chanter ses louanges. Rendons-lui grâce en bénissant son nom. Oui, l'Éternel est bon. L'Éternel est son amour. Et sa fidélité demeure à jamais. Ô notre Dieu, tu fais retentir ta parole pour ce monde. Et ce matin encore, nous voulons l'entendre. Nous te demandons ton esprit pour nous la faire comprendre. Et même si nos cœurs et nos vies sont parfois rebelles, donne-nous de la recevoir. Comme la bonne nouvelle qui libère, comme la paix dans nos tourments, comme une promesse sur nos chemins, comme la source de nos engagements. Nous écoutons dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, les versets 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ces trois versets sont le point d'orgue d'un dialogue entre Jésus et ce spécialiste de la loi juive, Nicodème. Un entretien nocturne, loin des regards indiscrets pour répondre aux questions intimes de ce pharisien. Ici, les rôles sont inversés et Nicodème se met à l'écoute de l'enseignement de Jésus. La réponse de Jésus est ici déconcertante. Elle résonne comme une provocation pour Nicodème, cet homme si expérimenté, et peut-être pour nous aussi aujourd'hui. En réalité, c'est un terrain miné de concepts théologiques qui se présente à nous ce matin. Et je vous propose d'avancer ensemble pour désamorcer quelques difficultés de ce texte et découvrir la beauté et la force étonnante de ce texte biblique. La première affirmation de Jésus est « Dieu aime le monde ». Cette déclaration d'amour résonne dès les origines dans le livre de la Genèse. Au commencement, il y a d'abord l'amour de Dieu comme une force créatrice pour ce monde. Et malgré les fautes et les infidélités des hommes, Dieu fait alliance avec Abraham. Il libère son peuple avec Moïse. Il appelle chacun par son nom, de génération en génération. Oui, Dieu est persévérant dans son amour. Le monde que Dieu aime est l'ensemble de l'humanité, sans restriction. Son amour ne se limite pas à une catégorie de personnes ou à une confession, juive, chrétienne ou musulmane. Dieu aime le monde dans sa richesse et sa pluralité. Cette déclaration est incroyable, si vous me permettez cette expression. L'affirmation de Jésus, « Dieu aime le monde », nous place dans un processus de transformation et même de conversion de notre regard sur Dieu. La représentation initiale de Dieu par Nicodème est ainsi modifiée et même décalé pour lui permettre d'entrevoir une nouvelle relation avec Dieu. Le second déplacement est la perception du monde dans ce passage de l'Évangile de Jean. Ici, elle est très positive. Dieu aime le monde. Cela signifie que Dieu participe activement à sa création. Il accompagne l'aventure humaine, en opposition à la vision de nombreux courants religieux de l'Antiquité, où la divinité ne s'intéressait pas au monde. Le croyant, alors, était invité à se retrancher et se réfugier dans une vie intérieure, loin de toute forme de corruption. En réalité, l'amour ne se vit pas seul. Dieu fait le pari de l'homme. Son amour a besoin de l'autre, un amour qui respecte la différence. Dieu s'adresse au monde et à chacun de nous en particulier. Mais cette relation n'exclut pas. Son amour est créateur de relations et en définitive de communion. Il a donné son Fils. L'amour est un élan qui s'exprime par un don. Accepter ce cadeau ne va pas de soi. Il n'est pas une obligation, ni une évidence. Comme le laisse entendre le prologue de Jean, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. D'où l'importance de la réponse de l'homme, accepter ou refuser ce don. En donnant son Fils, Dieu se donne lui-même. Mais comment accepter que Dieu s'incarne dans notre humanité, qu'il nous rejoigne dans nos existences? Dieu a un projet de vie pour le monde qui s'accomplit dans la venue de son Fils. Jésus, dans toutes ses rencontres, n'aura de cesse de rappeler la puissance libératrice de l'amour de Dieu, brisant ainsi bien des frontières religieuses et sociales entre les hommes et les femmes, les croyants et les incroyants, les étrangers et les autochtones. Un amour qui déstabilise, qui implique des choix, une réponse et une conversion. Par la puissance de son enseignement, par l'autorité de sa parole et la délivrance de nombreuses personnes, Jésus se révèle comme le Fils de Dieu venu pour sauver le monde. La mission de Jésus est une question ouverte pour beaucoup, hier comme aujourd'hui. L'accepter comme le Fils de Dieu nous interroge. Le reconnaître comme le Sauveur, celui qui accomplit la volonté de son Père, est un acte de foi. Faire ce pas ne va pas de soi. Qu'est-ce qui permet de le faire alors ? L'affirmation suivante éclaire un peu plus Nicodème. Jésus lui répond « Pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Aïe ! Voilà encore un gros mot de la foi, la vie éternelle. Comment la définir ? Quel est son impact pour nous aujourd'hui ? Est-ce vraiment une préoccupation pour le commun des mortels que nous sommes ? Dans l'évangile de Jean, la vie éternelle, ce n'est pas ce qui vient après notre vie terrestre. La vie éternelle commence ici et maintenant pour le croyant, dans la reconnaissance de ce Jésus qui se présente comme le chemin, la vérité et la vie. La mort n'est plus le point final de notre existence. La vie prend un sens nouveau pour celui qui croit. Elle est synonyme d'un chemin de liberté et de communion. C'est-à-dire un amour partagé au nom de Dieu, une alliance renouvelée entre Dieu et les hommes au nom de son Fils. La vie est aussi une source de réconciliation avec soi et les autres. L'autre devient mon prochain, l'étranger mon frère. La foi est donc une acceptation de cet amour inconditionnel et sans restriction. Elle est un espace où Dieu et l'homme se rencontrent et s'apprivoisent dans la prière. Elle est une parole de confiance partagée qui se grave dans nos cœurs. La foi ne se résume donc pas à un enseignement dogmatique ou une vision idyllique ou au contraire catastrophique du monde, mais dans le témoignage vivant de la présence aimante de Dieu dans son Fils Jésus de Nazareth. La seule responsabilité de l'homme est de croire. Mais cet acte de foi est aussi un acte de courage qui expose le croyant à témoigner de son espérance et de l'amour de Dieu pour le monde. L'homme porte la responsabilité de son choix en reconnaissant le Christ dans sa vie. Il manifeste dans son existence la réalité d'une vie nouvelle et éternel. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. L'Ancien Testament est marqué par l'alliance entre Dieu et son peuple. Les 10 commandements donnés à Moïse sur le mont Sinaï sont un cadre de loi pour vivre une nouvelle relation de justice. Elle place le peuple dans une obéissance stricte de la loi, où Dieu devient le juge. La loi révèle les fautes et les péchés du peuple qui les expie pour un temps dans des sacrifices et des rituels. La venue de Jésus brise cette logique légaliste qui conditionne le pardon de Dieu. Jésus s'opposera alors aux pharisiens et aux scribes, c'est-à-dire aux grands prêtres et leurs assistants qui se revendiquent comme les héritiers de la loi de Moïse. Il n'est pas là pour pointer les défaillances des hommes et leur injustice, mais pour les convertir et rétablir une nouvelle alliance en Dieu. La justice du Christ n'est plus basée sur les œuvres de la loi, mais sur la foi. Le jugement de Dieu n'advient pas sous forme d'un jugement dernier à la fin des temps, mais dans le refus de reconnaître son Fils. Au XVIe siècle, la réforme protestante a découvert cette puissance de libération où le juste vivra par la foi. Elle a placé le salut gratuit au centre de la foi chrétienne. Le croyant n'est plus sous la condamnation, sous l'obligation de gagner son paradis et sa vie éternelle. Dieu a aimé le monde de manière définitive. Cet acte d'amour est premier dans la relation nouvelle qu'il construit avec les hommes. Dieu vient ainsi nous libérer du jugement. Le don de la vie est plus fort que la menace, le jugement, c'est-à-dire la condamnation. Si le salut est un don de Dieu, il appartient à l'homme de l'accueillir avec confiance. Nous comprenons alors que Dieu n'est pas un concept. Il a un visage, un regard favorable en Jésus-Christ. Que le monde soit sauvé par lui. Dernière difficulté de taille de ce court récit, la question fondamentale du salut surgit. Être sauvé de quoi aujourd'hui ? Si le Moyen-Âge était focalisé sur la peur du jugement dernier, notre société est plus angoissée par des questions économiques que théologiques. Avons-nous besoin en réalité d'être sauvés ? Nos sociétés modernes ont construit l'image d'un homme tout-puissant, tout au moins autosuffisant. Mais cette vision apparaît comme un leurre. Les crises économiques et financières révèlent la précarité et le déséquilibre des relations entre les hommes. La mondialisation des échanges commerciaux met à jour nos besoins insatiables de consommation. L'homme apparaît bien vulnérable dans cette interdépendance et cette globalisation des échanges. L'homme aurait besoin d'être sauvé de lui-même. La piste est ouverte par Jésus. Pour Nicodème, dans ce débat intense, faut-il naître de nouveau ? Non selon la chair, mais selon l'esprit. L'amour de Dieu devient alors un événement pour le salut, qu'il annonce pour le monde. Une espérance est possible. Être sauvé signifie devenir des êtres nouveaux. Le croyant est libéré de lui-même, de tout ce qui l'enferme et le réduit dans sa relation à l'autre et au monde. Il participe à une humanité réconciliée avec elle-même et avec Dieu. Oui, Dieu nous aime, Dieu m'aime, comme un être unique à ses yeux. La seule responsabilité est de croire. L'homme porte la responsabilité de son choix. Croire, cela signifie d'abord accorder sa confiance à quelqu'un. Croire, c'est donc une relation ouverte et confiante. Mais quelle est donc la responsabilité du croyant ? Le chrétien est donc un être nouveau qui n'est plus sous l'emprise du monde. Sa mission est donc d'aller dans le monde pour partager cette lumière d'espérance au nom de Dieu. S'engager dans le monde devient une mission première du chrétien. Avec cette ferme assurance que tous les fléaux, l'angoisse, la faim, la pauvreté, la violence, la guerre ne peuvent réduire au silence sa foi. La mort et le péché ne sont pas une fatalité pour celui qui croit. Le chrétien est un être à découvert. Il est donc solidaire de ce monde. Par son engagement et sa foi, il rappelle que Dieu a rejoint définitivement notre humanité. L'homme est destiné à vivre une vie nouvelle. Nicodème devra aussi faire cette expérience pour passer de la nuit des questions au jour où il sera en mesure de confesser sa foi en Christ, le Sauveur. Recevoir l'amour de Dieu pour Nicodème et pour chacun de nous est donc un acte de courage et de foi, un appel à la résistance, à la protestation, pour redire sans cesse la force libératrice de l'Évangile. Elle est un engagement dynamique dans le monde pour vivre des petites et grandes choses avec l'assurance de l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Loin d'un repli hors du monde, avec le risque de rester entre soi sécurisé par les traditions, c'est un appel en premier lieu à recevoir et partager l'amour de Dieu au cœur du monde, en confrontation avec les joies et les souffrances de nos frères, de nos sœurs en humanité. Recherchez donc chaque jour cet amour que Dieu a placé dans votre cœur et au sein de ce monde. C'est ce que je vous souhaite pour ce jour. Amen. Je vous propose de prolonger cette méditation par un temps de prière. Un jour, ta voix nous a appelés, Seigneur. Ta parole nous a créés et nous voulons être des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, germes de paix et d'espérance pour le monde. Nous te prions pour ceux qui ont perdu l'espoir, pour ceux que décourage la dureté des humains. Que pour eux, le mal ne soit pas plus fort que le bien, mais qu'ils gardent un cœur ouvert, qui sache attendre et espérer. Que ton Église jalonne la route des hommes et des femmes de gestes qui donnent une authentique espérance. Donne, Seigneur, à nos gestes les plus simples et parfois les plus traditionnels, la dynamique de l'espérance. Que le royaume de Dieu annoncé et manifesté en Jésus fasse un chemin à travers nos vies quotidiennes. notre vie personnelle sera alors un signe concret d'espoir aux yeux de tous et surtout aux yeux des plus humbles et des plus humiliés. Aujourd'hui, tu mets ton nom sur nos lèvres. Ton œuvre est dans nos mains, car tu nous fais entièrement confiance. Fais de nous des germes de paix et d'espérance pour le monde. Car l'amour de Dieu prend racine au jardin des oliviers, dans les terres rouges de l'amour livré, dans les terres argileuses et façonnées du pardon, sur les sommets élevés de la vérité partagée, sur les pierres saillantes de l'esprit de justice, sur les chemins rocailleux de l'âpre négociation, sur les sables chauds de la réconciliation et de la tendresse, dans les limons généreux de l'amitié et du respect, sur les terres cristallines de la fête et de la joie. Oui, Dieu aime le monde. Oui, Dieu nous aime. Il trace un chemin de vie pour chacun et chacune d'entre vous. Que son amour soit une force et une joie renouvelée pour ce jour nouveau.
Ainsi s'achève ce service protestant avec le pasteur Daniel Cassou de l'Église protestante unie de France, chargé de la communication. Merci à Michel-Ange Vinti pour la réalisation de cette émission, à Jean-Richard Dufour pour la prise de son. Le service protestant est proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Sachez que vous pouvez retrouver le texte complet de cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Vous pouvez également recevoir ce texte par courrier en écrivant au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris.